93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
Hey, on n'en a pas fait cette semaine.
C'est vrai, c'est
le
premier.
Temps. Connaissez le concept, c'est l'épisode quoi, 6 ou 7?
6? 7?
Moi, je pense qu'on est rendu à l'épisode 7.
Mon Dieu.
Ouais, ça va vite. Toujours, je sais que les auditeurs vous apprécient. C'est une formule où on prend un verre avec une personnalité connue. Qu'importe. Genre de personne, le critère, c'est qu'on aurait le goût de prendre un verre avec puis de jaser, mais pas de façon comme on le fait toujours à la radio, dans des entrevues formelles ou toutes. Parler de tout et de rien. Parler de sujets que cette personne-là aborde pas tout le temps. Alors, on le fait avec Claude Poirier, on le fait avec Michel Laplante, on le fait avec Jérémy Gabriel, on le fait avec Sam Ahmad, on le fait avec...
Et Joannie d'Occupation Double et Bernard Brinville.
Bon, et là, aujourd'hui aussi, parce que les gens nous l'ont demandé. On, honnêtement, on n'y a pas pensé quand on a fait notre liste. On n'a pas regardé les gens proches de nous. Mais on nous a suggéré notre chroniqueur, Pierre-Yves McSween.
Oui.
Et Elisabeth, t'es allée prendre un verre avec lui.
Oui, puis c'est le fun parce que Pierre-Yves parle pas de sa vie privée. Hein. C'est un chroniqueur économique, alors c'est de ça qu'il discute sur ses tribunes. Puis je vais dire, il était un peu stressé après l'entrevue. Les jours d'après, il était là, il me semble que j'étais là un peu loin. Là. Je peux-tu écouter les clips avant?
Ah,
là,
trop tard.
Non, trop tard, tu l'as dit.
Non, mais j'en ai des questions pour lui parce que, tu sais, bien des gens, en raison de son livre, en as-tu vraiment besoin? Puis de sa philosophie, tu sais, on se demande tout, il est-tu cheap dans la vie?
C'est ça.
Comment est-ce qu'il se comporte une fois qu'il a donné tous ces conseils-là? Comment ça marche dans sa vie à lui?
Mais on a tout abordé ces sujets-là. En premier, j'ai abordé son look à Pierre-Yves parce que, Pierre-Yves, il va avoir 40 ans bientôt, mais quand même, il a l'air assez jeune, il a les cheveux longs, il a un look très décontracté, puis ça fait partie un petit peu de son personnage. J'ai dit, ton look a beaucoup évolué au fil des dernières années. D'ailleurs, si vous vous rappelez de lui dans ses premières chroniques de la presse, allez pas chercher cette photo-là, vous ne le reconnaîtrez pas. Là. Mais des lunettes un peu intello, les cheveux courts, il est méconnaissable. J'ai dit, est-ce que c'est important
c'est
pour toi?
Image de
c'est
marque,
ça, exactement.
Peu, là.
C'est-tu important pour toi, ton nouveau look? Est-ce que ça fait partie de ton personnage?
Il a demandé dans les médias, j'ai des dents tout croches, j'ai des broches, j'ai des lunettes, mes cheveux sont frisés un peu courts, puis je porte des cravates trop grosses parce que c'est la mode à cette époque-là. Ça fait 10 ans, mais ça, ou 8 ans, donc. Mais j'ai commencé à faire des médias, disons, en 2010. Les gens, ils disent, montée fulgurante, ça va faire 9 ans cette année. Mon look, je m'en suis jamais vraiment intéressé. C'est peut-être parce que j'étais un homme de 39 ans aussi. Tu sais, un gars de 39 ans qui avait l'air jeune à 25, l'air un peu moins fou à 39 ans. Puis des fois, tu te rends compte que, oh mon Dieu, je parais vraiment mieux maintenant qu'il y a 8 ans. Je le sais, là, je suis pas calme. J'étais plus gros aussi, j'étais plus mince. Comme aujourd'hui, je suis arrivé, je m'étais habillé pour l'émission, puis le monde fait gros! Ah, t'as amélioré ton look? Ben non, c'est parce que l'année passée, pour l'émission, ils me payaient un styliste qui avait pas une scène pour m'habiller, fait qu'ils prenaient les affaires en rabais, puis ils ont décidé de m'emmener que je m'habillais en veston cheap avec des jeans. Fait qu'ils ont décidé que c'était ça, là, fait que j'étais pogné avec ça. Là, de m'emmener, j'ai décidé que c'était assez, le veston lettre avec les jeans. Mais.
Fait que tu t'en soucies pas, ton look. Demain matin, tu peux retourner un look
à non, les cheveux, j'aime ça qu'ils sont un peu plus longs que la moyenne.
Un petit peu coquet quand même. Un peu coquet. Peut-être que vous savez, Pierre-Yves a fait l'école de l'humour. Hein? Il s'échappe des fois sur certaines blagues dans sa chronique, mais Pierre-Yves a vraiment fait l'école de l'humour. Certains le
donc,
savaient.
Donc, on a ça en commun. On est deux ratés de l'industrie.
Mais tu l'as même pas fait de l'école d'humour. Il y a une formation de plus que toi, si tu le prends comme ça.
Mais on est quand même deux ratés.
C'est ça. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, pourquoi tu as décidé de faire l'école de l'humour? Est-ce que c'est une carrière ratée, finalement?
J'ai compris que tu peux faire l'école d'humour à temps plein, puis l'école d'humour pour le fun. J'ai pas fait l'école d'humour, j'ai pas fait mon diplôme à l'école d'humour. Mais il y a des ateliers le soir, qui ont exactement les mêmes techniques, mais tu payais 300-400$ pour un cours, puis tu faisais une douzaine de cours, puis tu apprenais les techniques. Et je vais aller faire les cours du soir pour le fun, et je me suis inscrit aux cours du soir. Puis là, je me suis lancé dans une épopée de cours de soir, d'école d'humour, de cours de djembé africain. J'ai fait mon cours de fin de semaine de barman, reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. J'étais tanné de faire des cours sérieux, j'avais envie de faire comme tous les autres gens qui font pas attention à leur avenir, c'est-à-dire écouter son cœur et avoir du fun.
Fait qu'il a fait beaucoup, beaucoup de cours du soir.
C'est cool, comme mentalité, ça.
Non, mais c'est vrai. Puis honnêtement, ça m'a quasiment donné le goût. C'est vrai que si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de chum, vous n'avez pas d'occupation le soir, il y a plein de cours qui se donnent. Écoute, il a fait du djembé, là. Pour ceux que c'est pour sa formation économique,
quoi,
là, qu'il a fait ça.
C'est un tambour africain.
C'est un thème, ouais, c'est un type de tambour. Alors, donc, c'est pas, il n'y a pas son diplôme à l'école du monde, mais il a fait des ateliers.
On devrait se trouver d'autres passions.
Ah non, moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Je pense à ça, moi. Je pourrais me prendre un cours du soir.
Oui, un cours de vin, par exemple, qui se donne des fois à la SAQ pour en apprendre un peu plus là-dessus.
Fournissent le matériel ou faut.
C'est ça,
faut t'acheter
ton propre vin.
Si tu amènes... Non, mais un
votre vin.
Je sais pas. Pourquoi je fais pas ça?
Ben, je sais pas. Tu pourrais le faire. Puis c'est le bon timing pour le faire. Parce que quand t'as pas d'enfant à t'occuper le soir ou quoi que ce soit, ben, c'est là que t'en profites. Ouais. Là. On va parler d'enfants, justement. Pierre-Yves a deux enfants. Il y a deux garçons. J'ai demandé, est-ce que t'as toujours voulu avoir des enfants? C'est quoi ta vision de la parentalité?
Tu sais, moi, les enfants, c'est pas, je peux dire ça. T'as jamais été un but. Ça finit par faire partie de ton parcours de vie. T'sais. En fait, les gens qui en ont pas eu ou qui en veulent, ont peur de manquer quelque chose. Les gens qui en ont eu, ben, savent qu'ils ont manqué d'autres choses. J'ai dit à mes enfants, je tiens à le dire, je les adore, mais j'étais pas le genre de gars que ça prenait ça pour accomplir sa vie. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça, puis s'ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas accomplis. Moi, je veux, j'ai une quête de création, j'ai une quête de vie, j'ai une quête de vivre des choses. J'aurais pu en avoir, j'aurais été très heureux quand même, mais ils sont fabriqués, ils sont là, j'ai investi dans eux, puis je les aime. Une fois qu'ils sont là, t'es attaché. Non, mais le troisième que j'ai pas eu, je m'en ennuie pas. Tu comprends-tu? Parce que je l'ai pas eu. Puis là, ils m'ont dit, t'as pas eu de petites filles? Ben non, mais j'ai eu deux petits gars. Tu sais, il y en a qui ont eu juste des filles, il y en a qui ont eu juste des gars. Bon, j'ai deux petits gars, puis je les aime beaucoup, puis grâce à eux, j'ai une jambe dans le plat d'être dans cette histoire.
Parce que vous savez que Pierre-Yves s'est blessé alors qu'il se promenait sur le trottoir avec ses enfants. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on dirait que t'as pas le droit de dire ça dans la vie. J'ai eu des enfants, je suis contente, mais j'en voulais pas nécessairement tant que ça au début. C'était pas un but dans ma vie. C'est comme mal vu un peu de dire ça. Puis pourtant, c'est la pensée de bien du monde.
Mais dans le fond, ce qu'il a dit précisément, c'est j'aurais pu être heureux sans enfants.
Exactement.
Mais c'est tabou.
Oui, t'as pas le droit de dire ça, c'est vrai.
Non, parce que ceux qui ont des enfants, souvent, ils vont juger sévèrement. Non, hey, là, t'as pas le droit de dire ça. Là. C'est ça, puis c'est rien que ça. Puis, en tout cas, moi, je comprends son point de vue.
Moi aussi. Puis, vous avez entendu à la fin, il dit, ils sont là, j'investis en eux. Parlant d'investir en ses enfants, on a entendu Pierre-Yves dire souvent qu'il n'allait pas payer pour les études de ses enfants. Si tu veux faire des études, c'est à toi de payer. On l'a entendu dire que quand il aurait 18 ans, il faudrait qu'il paye une pension pour demeurer dans sa maison. Est-ce que c'est vrai tout ça ou ça fait partie du personnage de Pierre-Yves McSween?
Première des choses, je remplis le REE de mes enfants à pleine capacité. Je leur mets 208,33 par mois dans leur compte de banque. Si j'aimais 208,33 par année, puis que le gouvernement ajoute 30% plus le rendement, puis je fais ça pendant le maximum où la subvention est éligible, c'est-à-dire qu'aller maximiser les subventions, ils vont avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars dans leur compte de banque. Ils vont être gros durs avec l'argent que je vais leur donner. Donc, est-ce que je vais payer leurs études? Ben oui, avec le REE, mais ça, je ne payerai pas en plus. Tu sais, ils vont avoir 30, 40 000 piastres, tu sais. Je veux dire, peut-être que je vais les laisser vivre chez nous jusqu'à 21. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tes enfants ont fini leurs études, puis ils collent encore à la maison, puis ils ont une job à 40 000 d'école, tu sais, fais ta vie. Tu sais, je suis pas un buffer financier, puis laisse-moi retrouver ma vie moi aussi, tu sais. J'ai ce sophisme-là de dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants gâtés de d'autres personnes, puis j'ai vu ce que ça a donné. C'est des gens qui sont pas habitués à l'effort. Des gens pas habitués à l'effort, c'est dangereux. Puis j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent chaque semaine pour me dire, je suis pas avec mon enfant de 36 ans qui me demande encore de payer ses affaires, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y a une personnalité de tes enfants là-dedans. Là, je fais le gars qui est rationnel. Je vais avoir un cœur, puis si mon gars, il y a une dette de drogue, je vais y payer. Pis,
ah oui?
Mais oui. Mais ça sera pas gratuit, tu sais. Tu peux pas élever un enfant puis lui donner tout cru. C'est tellement cher, l'argent net. S'il réalise pas que 10 000 $ c'est de l'argent, comment il va le réaliser, tu sais?
Je suis d'accord avec lui. Quand t'as pas d'enfant, tu dis ça, des fois, ça paraît mal, mais
ouais.
Lui, il y en a, là.
Oui, vraiment.
Ce qu'il dit, c'est qu'il veut pas trop les gâter. Trop gâter quelqu'un, c'est nuire. C'est pas nécessairement être un bon parent. Tu vas y nuire. C'est ça qu'il dit. Lui, il veut être un bon parent. Il va lui donner un méchant beau mont. Hey, c'est un méchant beau cadeau. Ben oui, là, si on 30, 40 000, ça part bien. Mais le reste, débrouille-toi.
Exactement.
À 21 ans, go, puis va te chercher un job.
Décolle.
L'effort. Fais un peu d'effort.
C'est ça.
Si t'as tout cuit dans le bec, c'est pas bon.
Exactement. Et écoutez bien la prochaine clip. J'ai demandé comment tu inculques la valeur de l'argent à tes enfants. Quand un père qui est chroniqueur économique, puis que dont la devise est « en as-tu vraiment besoin », comment ça marche à Noël pour les cadeaux? Comment ça marche aux anniversaires? Est-ce que c'est vrai que tu leur achètes pas de cadeaux?
Moi, c'est belle valeur. Mon petit gars, j'y fais écrire mon IF sur ma carte de crédit, puis je fais rentrer dans le guichet automatique. Puis je fais retirer l'argent du mur. Je fais comprendre la valeur des choses. Des fois, c'est bizarre. Des fois, il dit à ses amis, les gars-là, ils vaut très cher, ça. J'aime moins ça quand il fait ça. Quand ils me disent, papa, pourquoi t'as pas de voiture neuve? Je fais parce que papa, il a décidé d'avoir une maison. Ah, ils vont me dire, pourquoi tel voisin a telle affaire, puis nous, on n'a pas ça? Si papa, il pourrait payer ça, mais vous auriez pas ça. Tu préfères-tu avoir une chambre à toi ou avoir une voiture neuve?
Puis à Noël, ça a l'air de quoi? Puis à leur père?
À Noël? Moi, dans ma vie, une chambre blonde, frère, sœur, parents, là, ça fait longtemps qu'on a arrêté ça, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai dit, grand livre, on le fait. C'est-à-dire, soit un chalet ou faire une activité, je crois plus à ça. Des moments de souvenirs. Puis, tu sais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, mes enfants, je leur achète des choses quand juste quand ils ont besoin. J'attends pas Noël. Et moi, mes enfants, ils ont eu des Legos au mois de mars. Donc, à Noël, je sens pas une obligation de faire une orgie de cadeaux. De leur acheter un cadeau, deux cadeaux, mais des beaux cadeaux. Mais mes enfants, j'aime bien vivre des expériences avec eux. Tu vois, cette année, je les ai amenés au Musée d'art contemporain. Ça a l'air bizarre. Ils ont vraiment trippé. Je les amène au Salon du livre, ils aiment ça. Je les amène à Issaute aussi, ils aiment ça, jouer sur des trampolines. J'essaie de les exposer à bien les affaires, mais ils ont beaucoup de livres. Et mon gars est très bon à la lecture, donc je crois à la corrélation du fait que je l'ai beaucoup poussé à être exposé à la lecture et sa capacité de lecture. Ma mère a fait ça, ça a fonctionné. J'avais au Salon du livre tous les ans, faisait manquer l'école. J'admirais ça, les gens qui étaient capables d'écrire 300 pages d'une histoire, de la mettre sur le papier, qu'il y a des gens qui veulent l'acheter.
Il y a des affaires bonnes là-dedans, là, parce que est-ce qu'il est cheap? Non.
Non.
Il est généreux.
Oui.
C'est juste qu'il se donne pas l'obligation de l'orgie de dépenses. Quand arrive Noël, il faut absolument que tu surpasses tout le monde, donner les cadeaux, puis que l'arbre de Noël, ça soit spectaculaire avec 50 cadeaux. Lui, il embarque pas là-dedans.
Non.
Remarque, c'est un choix, là. Lui, il dit, regarde, moi, j'achète, à chaque fois qu'ils ont besoin de quoi, je leur donne des cadeaux, tout ça. Puis, autrement dit, à Noël, il sent pas la pression d'arriver que de quoi. Là.
Non, puis on vient de passer le Salon du Livre à Québec. J'ai trouvé ça très bon. Ouais. Il amène ses enfants au Salon du Livre et il dit même que sa mère lui faisait manquer l'école quand il était jeune pour aller au Salon du Livre. Écoute, c'est un beau cadeau.
Tu sais quoi, là, je vais en faire un peu cliché, mais ben, c'est ça. C'est un cadeau, ça aussi. C'est un cadeau à faire à ses enfants.
Vraiment?
C'est un cadeau à faire à ses enfants, lui montrer la valeur de l'effort. Je reparle de la clip de tantôt que je trouvais très bonne. C'est un cadeau, ça. Parce que si tu lui donnes tout, ça devient un cadeau de grec. Ça devient un peu un cadeau empoisonné. Là. Ah, moi, j'ai tout donné à mes enfants. Ben, bonne chance. Mais qui quittent le nid, ils ne sauront pas voler, ils vont se planter à terre.
Exactement.
C'est comme ça. Que
c'est très bon. Là, on va rentrer dans le personnel un petit peu plus.
Ouais.
Pierre-Yves s'est séparé l'année passée. Il est en couple avec la mère de ses enfants depuis 18 ans.
Oh, alors, ils 18
ans? Oui, depuis 18 ans. Il était très jeune quand ils se sont rencontrés.
Oui.
On sait que Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui est très, très occupé. Il a des contrats à gauche puis à droite. C'est un travailleur autonome. J'ai demandé en quoi ta séparation a changé ta façon d'être avec tes enfants. Et c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec sa réponse.
Ben, tous les parents vont se séparer, vont te le dire, pour deux raisons. Première raison, c'est quand t'es séparé, comme t'as pas tes enfants tout le temps, quand t'es vois, t'es 100% avec eux. T'es 100% avec eux, puis tu passes, tu dis, ah, il y aura une fin. C'est-à-dire que, mettons que t'es là pour trois jours, tu vas te donner à 100% pendant les trois jours, tu vas mettre le reste de côté en disant, je vais me rattraper professionnellement, puis dans les tâches ménagères, quand ils seront pas là. Je pense que, en toute honnêteté, les enfants de parents séparés ont du temps de qualité avec leurs parents séparés, plus à 100% que lorsqu'ils étaient à deux. Moi, je m'occupe plus et mieux de mes enfants maintenant, et je m'occupe mieux de moi maintenant. Et quand je suis pas avec mes enfants, j'ai plus de vie, je suis moins choqué. Quand je m'occupe de mes enfants, ben, je mets sur pause le reste, puis je dis, là, t'as des enfants, tu t'en occupes, on verra plus tard. Donc, je suis un meilleur père séparé, sincèrement.
Ça va faire jaser.
C'est controversé.
Ben non, je suis pas d'accord avec lui, mais je suis convaincu qu'il a raison quand il parle de lui.
Oui.
J'ai pas à remettre ça en question, là. C'est lui qui le sait, là. Regarde, lui, il dit qu'il se consacre plus à ses enfants quand ils sont là, puis qu'il a une faim. À un moment donné, il est plus indépendant, j'imagine, il fait ses affaires, tout ça. Mais là, on parle d'une séparation réussie. Ou, si je comprends bien, il n'y a pas de chicane, puis ils s'entendent bien sur qui est avec les enfants, quand est-ce qu'ils sont avec les parents.
Oui, c'est une garde partagée, oui.
Bon, si je comprends bien, tout va bien. C'est parce que c'est pas le cas de beaucoup de séparations où la chicane des parents se transpose sur le dos des enfants. Puis ils payent le prix de ça.
Ouais.
Juste voir ses parents se chicaner. Imagine-toi ceux qui se ramassent au tribunal. Il y en a en masse.
Ouais, ouais.
Puis là, la chicane est pognée. Excuse-moi, là ça fait pas des meilleurs parents. Là. Mais son message nous envoie un... Il faut pas généraliser.
Non.
Moi, ce que je retiens, c'est, garde, ne généralisons pas. Lui, tu qui es heureux, je le crois.
Alors, c'est pas tout le monde qui fait d'accord. Déjà, ça réagit.
25-226.
Mais vous avez le droit, c'est bien correct.
Ça dépend de l'âge aussi. Là. Ces enfants sont pas, ils n'ont pas, je pense, 1 et 3 ans. Là.
Non, ils sont un petit peu plus vieux, mais sont en âge primaire à peu près, si je me souviens bien.
Parce que si tu écoutes le Doc Mayou, exemple, il va dire qu'en bas âge, la présence de la mère de façon permanente et maternante, tout ça est essentiel. Rendu encore là, tout ça pour vous dire qu'on peut pas juger
non,
les parents divorcés, c'est mal. C'est bagarre. Gardons-nous une petite gêne. Ça dépend de l'âge des enfants. Ça dépend de l'entente entre les deux.
Exact.
Ça dépend de plein d'affaires.
Hey, on ne fait pas ne pas parler de Caroline Néron, mais j'ai même pas fait exprès, sincèrement. J'ai demandé à Pierre-Yves s'il y avait des ennemis dans les médias. S'il y en avait qui l'aiment pas.
Il faut rappeler qu'avant même l'histoire de faillite de Caroline Néron, Pierre-Yves, il s'était fait ramasser, avait un peu critiqué son choix dans l'émission Les Dragons en disant, grosso modo, as-tu vraiment un moyen d'être là?
C'est exactement ça. Alors, en posant la question, est-ce que tu as des ennemis dans les médias? Ça a débordé sur Caroline Néron.
Moi, j'ai pas de malaise avec les gens, mais les gens ont des malaises avec moi. Dans les médias, il y a des gens très hargneux. Il y a des malades mentaux sur Internet, donc je les connais pas, c'est pas grave. Caroline Néron, je me suis jamais pogné avec, j'ai jamais parlé. J'ai juste analysé sa situation financière, puis j'ai dit, ce modèle d'affaires ne fonctionne pas, c'est ma job. C'est comme si tu étais une chroniqueuse culturelle, puis tu dis pas jamais qu'un show est plate. C'est une mauvaise chroniqueuse culturelle ou un mauvais chroniqueur culturel. Moi, je dis, ce modèle de business-là, où on se vend d'être millionnaire et d'être successful, c'est de la bullshit. Tu nommes un dragon simplement parce que la personne a de l'air de réussir. J'ai été auditeur externe de compagnie publique. J'ai vu des marges de profit. J'ai vu. Tu peux pas générer en vendant de la breloque, des niaiseries même, en argent ou des grosses marges et en avoir des coûts fixes dans de multiples centres commerciaux. Elle m'a jamais parlé. J'ai jamais parlé. Mais moi, j'aurais aucun problème à y parler. Mais peut-être qu'elle m'aime pas parce que je parle de ce business, mais c'est ma job. Tu sais, combien de critiques ont été détestées par des artistes parce que les critiques ont dit ton show, il est poche. J'ai pas eu de fun. Ben moi, ta business, elle est poche. j'en parlerai pas si tu t'en vantais pas, mais tu t'es dit la femme de 10 millions de dollars, de 15 millions de dollars, de chiffre d'affaires. Tu sais, ça vaut rien, un chiffre d'affaires. Si tu fais 50 000 avec 10 millions de chiffre d'affaires, lâche ta job, va chez Costco. Tu es mieux payé comme commis chez Costco. Tu sais, c'est ça, la réalité.
Là-dessus, je suis d'accord, mais ce qui est arrivé, ce qu'il a fait, c'est. Oui, ben, ça prenait un peu de courage pareil. Là. Moi, je connais le Québec, comment c'est les médias, à quel point les gens sont sensibles, sont allergiques un peu à la critique. C'est parce qu'il y a du monde qui nous vend du rêve.
Bon, c'est ça.
Là, je parle pas nécessairement des dragons de Caroline Néron.
Non, tout le monde.
On aime ça au Québec, vendre du rêve.
Ouais.
Or, ceux qui sont dans le rêve, ils aiment jamais ça se faire réveiller. Puis Pierre-Yves, c'est ça qu'il a fait. Il a réveillé du monde qui était en train de rêver, puis c'était un beau rêve. Là.
Il était dans le sommeil profond.
Bon matin.
Il les a checkés. J'étais en train de rêver, j'étais sur la plage, ça allait bien, tout ça, tout. Non, là. Regarde,
ça marche
pas,
là.
Il les a réveillés.
Hey, mais des ennemis, il y en a peut-être un, par exemple. Oh. Écoutez bien ça, ça, j'ai jamais su cette histoire-là. Il raconte qu'après une de ses chroniques, il avait critiqué un milliardaire qui avait fait l'objet d'un article dans le journal. Et donc, c'était dans l'actualité. Là. Et ensuite, le milliardaire l'a appelé avec son avocat pour lui faire part de son mécontentement par rapport aux commentaires de Pierre-Yves. Écoutez ça.
Il y a un milliardaire qui a eu des crédits d'impôt de sa compagnie et qui a eu un mécanisme fiscal, d'évitement fiscal, très bien documenté par un journal, basé sur simplement monter un scheme fiscal pour éviter l'impôt. C'était greed. Je peux te dire, là, je trouvais que c'était une stratégie fiscale basée complètement sur le fait de vouloir apporter des millions d'impôts. Je l'ai dit à radio. Il a tenté de me rejoindre par quelqu'un. L'intermédiaire a dit « Tu veux juste te planter? » C'est non. Finalement, son avocat m'a appelé pour me parler. J'ai accepté de parler au téléphone. Et il était sur la ligne. Il m'a engueulé pendant une demi-heure. Et il a tenté d'utiliser son pouvoir de richesse pour me diminuer, pour m'écraser. Et quand il m'a laissé placer un mot, parce qu'il m'a pas laissé passer un mot pendant une demi-heure, mais je l'ai écouté. Il dit, dis-tu encore que j'étais un avare? Je dis, oui, ce que vous avez fait, c'est un mécanisme encore d'évitement fiscal. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment, oh, mais je donne plein d'argent, je me fous que vous donniez de l'argent. Vous êtes une personne qui a tenté d'éviter de l'impôt avec un mécanisme un peu croche. Disons-le, c'est une manipulation comptable et fiscale, mais qui n'a aucun but autre qu'éviter de l'impôt. Puis là, il était fâché, puis assis, puis disait, c'est qui d'envie? Puis là, j'ai parlé à son avocat, puis j'ai dit, je ne veux plus jamais l'appel comme ça. Il est en train de menacer un prof de cégep comptable qui fait de la vulgarisation financière à la radio. Essaye de me menacer encore. Essaye d'utiliser ton pouvoir de richesse pour me faire peur, pour m'écraser. Tu y arriveras pas.
Milliardaire, il n'a pas 50 000 au Québec.
Il a reçu des crédits d'impôt.
OK, à go, on ferme les micros et on dit qui on pense. Préparez-vous, là. Il faut vraiment les fermer, là. 1, 2, 3, go.
C'est pas celui que vous pensez.
Je ne l'avais pas.
on ferme les micros.
Ferme les micros. OK, non, je vais faire comme les auditeurs, je ne le saurais pas.
C'est ça. Fait que devinez de votre côté.
Ben, non, mais c'est arrogant. Ah, c'est moi. Au-delà du conflit, là, je ne veux pas juger sur le fond, là, même si je comprends plus les arguments de Pierre-Yves, honnêtement, mais t'appelles. T'étais milliardaire pendant une demi-heure pour engueuler quelqu'un.
Il y a un chroniqueur économique, là, s'il te plaît. Là. T'as pas d'autre chose à faire dans ta journée. Là. Okay. Alors, on a parlé de son ego, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Pierre-Yves a un ego. Disons que son ego a beaucoup grimpé, augmenté, grossi depuis qu'il est très connu. Parce que ça fait 9 ans qu'il est dans les médias, mais ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est très hot, là, qu'on le voit un petit peu partout.
Ben, son livre a vraiment changé là, beaucoup de choses. Là,
exact.
Évidemment.
Alors, on a abordé ce sujet-là.
Non, c'est que les gens étaient confiance en toi dans la vie. En fait, moi, j'ai pas eu confiance tant que ça en moi jusqu'à 25, 27 ans. Mais j'ai toujours eu la personnalité que tu te vois et t'entends. Je suis la même personne, mais je suis plus à l'aise à faire des médias parce que j'en ai fait. Et succès t'a monté à la tête. Qu'est-ce que c'est quoi le succès de monter à la tête? Tu m'insultes sur Internet, je vais te répondre, mais dans la vie, je t'aurais répondu aussi, tu sais. Je vais être honnête, je pense être la même personne. En toute honnêteté. Mais les gens qui disent que le succès va monter à la tête, mais c'est parce que les gens t'attaquent plus si tu réponds plus. Tu sais, Paco Lebel, là, dès que t'es connu, il t'insulte. Les gens connaissent pas Paco, dollar Paco, là. Mais t'es une machine à insulter toute personne sur Internet. Une fois de temps en temps, je fais mon Guillaume Lepage.
Ça te fait-tu plaisir un peu de faire ça?
Non, ça me gosse. C'est juste que ça s'est agressé à un moment donné. Il y a une quantité de haine que t'es capable de prendre. Tu peux demander quand ça détourne gratuit, quand on interprète ce que t'es. Une fois de temps en temps, il y a un gars caché dans son sous-sol en train de se jouer après le corps qui t'en veut des gars. Mais lui, c'est bien de valeur. Cette journée-là, il va trop loin. J'y réponds. Puis s'il est pas content que je change de poste, tu sais, ma page Facebook personnelle, c'est ma page Facebook personnelle. Si tu m'attaques là-dessus, ben j'ai le droit de te dire, si t'es pas content de ma vie, t'es pas obligé de me suivre.
Paco Lebel, c'est un troll notoire en passant.
C'est le troll notoire.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très connu là, des gens qui font un métier public. Là, c'est un troll très, très notoire.
Mais quand tu as un job public, tu prêtes flanc à la critique. Depuis quand on n'a pas le droit de répondre? Je sais qu'il y en a qui jugent sévèrement le fait que Guilla il répond.
Oui.
Mais oui, chier du monde, oui. Des fois, puis il répond. Mais il a le droit.
Dès qu'il n'y a pas de nom, là, ça, c'est sa politique à Guilla. C'est dès que t'as pas de nom, puis t'as pas de
fait,
t'envoie chier. Il considère que t'es pas un être humain.
Mais c'est bien correct. Regardez-le, votre nom.
Non, mais il y a assez de monde, comme le dit, qui passe le temps à insulter. On peut-tu se défendre?
Ben ouais, c'est ça.
T'as le droit de te défendre.
Bon, là, on va parler de comment Pierre-Yves se gâte un petit peu. Parce qu'en as-tu vraiment besoin? Ça veut dire que tu vas pas au restaurant, que tu t'achètes rien, que tu fais pas des voyages. Ça veut dire quoi exactement? Fait que là, j'ai dit, Pierre-Yves, on veut savoir, tu fais-tu des folies des fois, des dépenses farfelues, acheter des choses dont t'as pas besoin. T'as-tu du fun dans la vie?
J'ai semi-meublé mon locataire avec des beaux électros. C'est une folie. J'ai acheté une guitare de 3 000 $ usagée en 2018-2017. C'est une folie, dans le sens que j'ai pas le talent. Je me suis payé un bel instrument parce que j'aimais ça, puis mais j'en ai pas besoin. Mais moi, ma folie, elle est quotidienne. C'est-à-dire que moi, je fais un très bon salaire. Je remplis Montréal. J'ai investi dans des blocs. J'ai deux blocs. J'ai investi dans la rebourse. Je pile de l'argent. Parce que je pense à pas mes vieux jours. Je pense à l'année prochaine, à l'année suivante. Quand j'ai pas mes enfants, je me paye des bons restos. Puis moi, il y a du monde qui pile toute l'année, là, ils grattent leur scène pour aller dans un voyage à 2 000 $. Moi, je dépense le 2-3 000 sur l'année. Plus que ça, je vais dépenser 5-6 000 $ en restaurant par année passée. Et là, on s'entend, monsieur, madame, tout le monde, là, je fais plus 40 000. Avec mes amis, je paye souvent. Le monde ne le sait pas, mais moi, je vais arriver chez vous, tu m'invites à souper, là. Il n'y a pas question que je t'apporte une bouteille de piquette, puis je vais t'en apporter deux, puis il va t'en rester un autre, puis je suis généreux. D'ailleurs, les gens qui me côtoient disent, Simon, tu savais comment t'offres. Moi, tu m'invites à souper chez vous. Tout est payé, tu t'es donné le trouble, tu fais la vaisselle. Pourquoi je t'arrive avec une bouteille à 15 $? Puis je dis, non, non. Je serais allé au resto, ça m'aurait coûté 150. Je vais apporter une bouteille de champagne, je vais apporter, tu sais, je vais pimper ma game un peu. Pas pour t'impressionner, parce que je pense que tu mérites ça.
Alors, Pierre-Yves est très généreux. Ça, c'est de l'avis de tous ceux qui le connaissent personnellement. C'est vrai qu'il y a une grosse partie de personnage.
T'as-tu payé ton drink?
Non, mais c'est pas un personnage dans le sens où il insiste beaucoup sur la rigueur. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est sa rigueur qui lui permet d'être généreux de temps en temps.
Ouais.
Parce que pour être généreux, ça prend de l'argent. Puis pour avoir de l'argent, il faut empiler un peu.
Ouais.
C'est la loi, il l'explique souvent. T'es chez vous pendant un mois. Regarde, les 3 derniers mois, là, ceux qui sont en bourse, là, sans travailler, là, sans avoir mis une heure, on a fait de l'argent pas à peu près. Là. Il l'explique des fois, Pierre-Yves, tu fais de l'argent, la bourse travaille pour toi. Tu fais rien, là. T'es chez vous, j'ai rien fait. Oui, j'ai travaillé, je fais de la radio, j'ai une job, me lève le matin, je travaille fort. Mais tout ce que j'ai fait à la bourse, ça m'a rien demandé, mais les économies que j'ai faites les années passées, les sacrifices que j'ai faits pour avoir ce petit montant-là que j'ai, moi, les 3 derniers mois, là, j'ai fait de l'argent. Là.
Mais oui.
Puis là, en fin de semaine, si je veux me gâter, puis je peux.
Exactement.
Je suis capable, mais je le crois qu'il est capable de payer la traite. Il l'a déjà dit, ça, qu'il ramasse les factures au restaurant, puis en Wego, puis tout.
Faut pas toujours croire son personnage.
Mais pour ça, il a ses sacrifices à lui.
Exactement.
Il y a un vieux char, je pense, qui date de 10-12 ans.
Il a changé récemment, il l'a acheté en 2500, je pense.
Il se lance pas dans une orgie de dépenses à Noël. Il y a une couple d'affaires qui sont dans son livre, tout ça, puis il suit ça.
Bon, parlant de son livre, si vous l'avez lu, vous avez vu que Pierre-Yves donne beaucoup de trucs pour réussir son couple financièrement. Il faut parler d'argent, faut pas avoir peur de séparer les dépenses.
Oui.
Exact. Alors, j'ai dit, bon, lui, comment il fonctionnait avec la mère de ses enfants avec qui il a été pendant 18 ans au niveau de la gestion des dépenses? Est-ce que ça donnait lieu à des chicanes lui-même?
Ben, quand j'étais avec la mère de mes enfants, on payait des dépenses communes pour remplir nos REER, pour remplir nos dépenses, puis à la fin du mois, combien t'as de dettes, combien j'ai de dettes, je vais t'envoyer un 1 000, tu sais, si t'es de là à peu près. Moi, je trouve ça un peu gossant de calculer ça. On a déjà fait au début là, un fichier Excel, puis voici ce que les pays t'ont payé, mais c'était un peu gossant, mais on voulait être fair, tu sais. Mais bon, la séparation, ça va quand même amener des chicanes d'argent, parce que là, qu'est-ce qui est ta valeur, combien tu dois, t'es pas marié, mais tu payes un montant, je comprends ça, mais en même temps, j'ai gagné plus d'argent. Bon, tu sais, c'est tout un... Ça a été douloureux, ça. Mais ça, c'est réglé, mais... Ça vient encore me chercher. Il faudrait que je sois plus mature là-dessus. Ça vient encore me gosser.
Pas facile, la séparation, pour personne. Hein? Ça donne lieu à des chicanes d'argent. En tout cas, je pense pas qu'il y ait un couple qui se sépare sans qu'il y ait des discussions un peu plates sur l'argent puis sur la séparation des biens. Mais quand il était avec puis qu'il séparait, c'était correct. Mais comme n'importe qui, au moment de la séparation, ça peut être plate. Maintenant, Pierre-Yves a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle blonde maintenant. Fait que tout est à recommencer au niveau de l'apprentissage financier du couple. Là. Fait que là, j'ai dit, est-ce que tu mets en pratique tes propres conseils? Étant donné que c'est tout à recommencer dans ta nouvelle relation, est-ce que tu parles d'argent avec ta nouvelle blonde?
On en parle d'argent, on parle de REER, on parle. Mais c'est pas de mes enfants, sa vie. Une personne qui a plus de 30 ans, qui a des enfants, tu vois, genre, sa vie. On a 5 enfants à deux, on n'habitera jamais ensemble pour l'instant. En couple, il n'y a pas de tabou d'argent, mais c'est ma seule règle. C'est-à-dire, comment ça va tes affaires? Tu remplis ton REER? Non. Faudrait que tu le fasses, moi, mais j'ai pas liquidité dessus, voici ce qu'on va faire. Je vais en parler. Toi, puis moi, on sort ensemble. Clairement, je te dirais, parle-moi de ton bilan, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ton plan? Tu devrais être plate, mais ce serait pour ton bien. Tu sais, je te manipulerais pour ton bien.
Alors, il en parle, puis dans les détails, oui. Mais c'est pas mauvais, par exemple, sincèrement.
Ben non.
Puis écoute...
Je sais que c'est un immense tabou, l'argent au Québec. Il faut pas parler de ça, puis de ça. Mais ça joue un rôle. C'est parce qu'on associe beaucoup argent au Québec, malheureusement, de par notre éducation catholique et syndicale. On associe argent à... De quoi qui est pas bon, puis de quoi de négatif et du matérialisme. L'argent, c'est pour s'acheter un gros char, pour se payer des grosses affaires. Non, c'est pas... Pierre-Yves va parler de ses enfants à l'université. Ben c'est pour ça, l'argent.
Mais oui.
Dans les soins de santé au Québec, là, faut que tu aies au privé, des fois. Ben ça prend de l'argent pour ça. Ça prend de l'argent pour voyager, pour s'acheter des livres.
Ouais.
En passant, des livres, tout le monde dit que c'est bon, là. Ben ça peut coûter 20, 30, 40. Mais moi, j'en achète des fois 50, là. 50 piastres. Ah oui, des gros livres d'histoire, tout ça, qui se passent pas des romans, là, ils les vendent pas chez Walmart. Là. Je sais que c'est moins cher, j'en achète là aussi, mais des fois, il faut que tu ailles chercher en beau, puis ça me coûte 50 $. Ben oui, mais l'argent, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire bien des belles affaires. Pourquoi pas en parler?
Mais c'est
pourquoi
ça.
Pourquoi pas en jaser? Quand ça va être important.
Ben oui, puis si tu partages ta vie avec quelqu'un puis vous partagez les dépenses, j'espère que vous savez un minimum combien l'autre personne fait puis comment elle gère son argent. C'est important.
Quand va venir le temps de faire des rénaux, quand va venir le temps de...
Exactement, c'est important. Et finalement, Pierre-Yves a une nouvelle blonde maintenant, comme je l'ai dit. Alors, on a parlé des démonstrations d'amour public sur les réseaux sociaux, les vedettes qui s'affichent avec leur nouveau chum, nouvelle blonde. Et on a aussi dévié sur ses prochains projets de livres qui sont liés à l'amour.
Tu sais, moi, je dis souvent, plus les gens disent qu'ils aiment quelqu'un à TV, par radio, moi, c'est vrai. Plus les gens sont discrets, plus ils sont amoureux. C'est ma théorie. Donc, quelqu'un qui a besoin de dire dans un gala comment il aime sa blonde vraiment beaucoup ou son chum vraiment beaucoup, c'est correct, ça leur appartient. Il y a quelque chose derrière ça qui en dit long, je trouve. T'as-tu besoin d'avoir fait un statement pour avoir de l'IQ? Sois cute dans Day to Day. J'ai un projet de livre qui est lié avec l'amour. Là, j'en ai un sur la facture amoureuse, mais j'en ai un depuis 10-15 ans avant d'être connu sur le marché de l'amour, l'offre et la demande, la valeur, ce qui génère. Puis ça va traiter un peu de ça. Votre livre, c'est la facture amoureuse. Je suis en train de l'écrire. Mon éditeur, plus j'en parle, parce qu'il dit « Veux-tu me l'écrire avant d'en parler? » Mais je l'écris. J'ai 7-8 chapitres d'écrit, mais ça va pas vite parce que je travaille beaucoup trop.
C'est pour quand?
Puis la garde partagée. C'est pour quand? C'est pour quand je vais l'avoir écrit. Je voudrais pour l'automne, mais ça commence à être sketch.
C'est dans quelques mois, là.
Ouais, mais c'est ça. Tu sais, le premier, je l'ai écrit en 6 mois, jour pour jour. J'ai travaillé dessus 3 jours semaine. Mais là, je suis pas capable. Il est plus technique, celle-là. Fait que je vais attendre.
J'ai hâte de lire. Moi, la facture amoureuse, là,
alors,
d'après moi,
c'est... prochain livre de Pierre-Yves. Ce n'est la question en terminant. Qui c'est qui a payé la facture?
Oui. Hey, mais c'est... Non, c'est... je vais dire, parce qu'évidemment, c'est une entrevue de Cogeco. Fait que c'est
mais
moi qui payais, remboursé par Cogeco.
Oui, on invite des gens, puis
mais,
c'est correct.
Mais, je vais vous dire, Pierre-Yves a dit, Élisabeth, je te jure, si c'était pas Cogeco qui payait, qui est mon employeur aussi, c'est moi qui t'aurais invité. Fait que je me suis dit, je vais le préciser, les gens
et,
vont aimer ça.
Et on précise,
et on précise que vous étiez au McDo.
Vraiment
il y a beaucoup
cheap.
De monde, hein, c'est pour
ça.
Un petit trio, puis c'est correct.